Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Toutes et tous, si le débat sur les réseaux sociaux numériques s'est focalisé à juste titre sur les fake news et l'intox, il a éclipsé d'autres dimensions importantes de leurs usages populaires, notamment le fait qu'on y partage massivement des informations issues des médias traditionnels. Ces derniers l'ont d'ailleurs très bien compris qu'ils formatent leurs news pour le web, quand ils ne sont pas eux-mêmes des pure players. En 2016, la part d'audience des sites d'infos provenant des réseaux sociaux a dépassé celle provenant des moteurs de recherche. C'est donc désormais par le biais de ces nouveaux lieux de sociabilité que nombre de citoyens s'informent et informent les autres. Sauf que celui ou celle qui partage peut s'approprier l'information et l'accompagner à sa manière, avec un commentaire plus ou moins ironique, une émoticône habilement choisie et bien sûr des hashtags pertinents. Facebook et Twitter sont donc aussi des hauts lieux de diffusion de l'information et bien sûr de mobilisation et conscientisation politique. Dans cet écosystème, l'espace public se voit approprié par les internautes qui en font un prolongement de la vraie vie ou au contraire l'instrumentalisent pour une cause qu'ils estiment invisible. Et ils en font ce que mon invité Arnaud Mercier appelle un contre-espace public. C'est là que les infos les plus douteuses ou les plus radicales, comme celle de la fachosphère, vont pouvoir s'épanouir. Mais hors ces cas extrêmes, les citoyens jouent avec la langue et avec les outils techniques pour dire leurs sentiments, mobiliser leur réseau ou exprimer leur scandalisation et leur indignation. Ainsi, les machines modernes sont-elles paradoxalement de vastes réservoirs à émotions bien humaines ? Bonjour Arnaud Mercier.
Bonjour.
Arnaud Mercier, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas, directeur des études à l'Institut français de presse, spécialiste des médias et du journalisme. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer le livre que vous avez co-dirigé avec Nathalie Pignard-Chenel, qui est professeure assistante en journalisme numérique à l'université de Neuchâtel en Suisse. Ça s'appelle Hashtag Info. Commenter et partager l'actualité sur Twitter et Facebook. Ça a été édité par la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme en 2017.
18.
Je voulais qu'on commence à dire pour les auditeurs que c'est pas du tout facile techniquement, méthodologiquement, de travailler sur Facebook et Twitter. Autant comme utilisateur, tout ça nous paraît transparent, il y a une belle interface. Autant il faut que vous nous racontiez, Arnaud Mercier, le volume. Alors c'est un collectif, hein, il y a 12 auteurs, mais le volume de données que vous avez dû traiter pendant des années, quasiment.
Pendant des années. Oui, ce livre est le fruit d'un programme de recherche de 3 ans et demi financé par l'Agence nationale de la recherche. On avait eu 300 000 euros pour faire ça. Et donc, on a collecté massivement des tweets, environ 30 millions de tweets. Voilà pourquoi ce programme de recherche en SHS était couplé avec 2 laboratoires d'informatique et une entreprise privée spécialiste de l'étude des réseaux sociaux. Donc, l'entreprise privée a collecté la donnée parce qu'il faut
il faut les extraire,
etc. Ensuite, un des laboratoires a plutôt travaillé sur l'analyse statistique, on va dire, qu'on pouvait en faire sur un certain nombre de points, par exemple le tempo, la diffusion, la dissémination, etc. Et l'autre a plutôt travaillé sur les réseaux, les articulations, les échos de l'un à l'autre, les retweets, enfin, etc. Et donc, effectivement, c'est un énorme travail. C'est ce qu'on va appeler, pour le coup, les humanités numériques, hein. C'est-à-dire la mise en dialogue de perspectives ordinaires, de sociologie, de sciences politiques, de tout ce qu'on veut, de SHS, avec précisément des outils informatiques qui sont absolument indispensables pour faire ce traitement de masse. Et encore, je rigole parce que pour nous, 30 millions de tweets, ça me paraissait absolument invraisemblable. Et il y a certains collègues d'informatique qui disent « Oh, 30 millions, ça va !» Enfin, vous voyez, genre, c'est... Non, c'est pas vraiment du big data, on pourrait faire bien plus.
On peut faire bien pire.
Alors, pour faire comprendre... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramassé pendant 4 mois, puis 2 ans plus tard, pendant 2 mois, tous les tweets qui comportaient un lien URL qui pointait vers 30 médias français qu'on avait repérés a priori, TF1, LCI, France Télévisions, mais aussi Le Monde, Libération, aussi Mediapart, Bastamag, enfin des choses plus militantes, plus confidentielles, L'Équipe, qui génère énormément de trafic. Bon. Et donc, il nous fallait récupérer ça. Et après, on avait donc le lien vers les articles. Et après, on a été reprendre tous les articles.
Original, les articles
vers quoi ça pointait. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, parce qu'il y a la partie invisible de l'iceberg, c'est les métadonnées, ce qu'on va appeler les métadonnées, ce qu'il y a derrière, qui permet de définir les choses. Par exemple, sur un tweet, tout tweet comporte une cinquantaine de métadonnées, puisqu'il y a l'heure à laquelle on l'a diffusé, il y a le lieu géographique d'où ça part, il y a l'outil avec lequel on l'a diffusé, il y a la couleur, il y a des tas de choses, la présence ou non d'un hashtag, enfin bref. Et donc nous, on en a sélectionné une dizaine. Et pareil pour les articles, parce que les articles, après, ils sont quantifiés par métadonnées, le nom de l'auteur, l'heure de publication, de la republication, des changements, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, on en a collecté une dizaine. Donc, vous comptez 30 millions de tweets qui pointent vers des articles. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'articles qui sont qui se répètent. Mais chaque article comporte une dizaine de métadonnées et chaque tweet comporte une dizaine de métadonnées. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a, du point de vue des SHS, pour nous, c'était vraiment des big data.
Ouais, je comprends. Non, mais c'est massif. Et puis, par ailleurs, je le dis aussi, vous avez administré, alors, dans le cas de Facebook, on dit comme ça, 1820 questionnaires à des étudiants pour
Absolument.
Un peu mesurer
des
les
étudiants
pratiques.
De Paris et de Lorraine, par ailleurs, une grosse étude. On en a même fait en plus, on en avait dépassé les 2000, mais comme il était assez lourd, beaucoup n'ont pas rempli jusqu'au bout, tout ça, on les a évacués au fur et à mesure. Là, on a fait une grosse enquête pour essayer de comprendre comment les 18-25 ans s'informaient avec les réseaux sociaux et de façon générale, comment ils s'informaient et en fait, quel était justement le point d'équilibre entre les médias traditionnels et le passage par les réseaux sociaux numériques pour s'informer. Donc on a effectivement fait une grosse enquête, mais là cette fois-ci ciblée sur les plus jeunes parce que on savait par ailleurs avec d'autres études que c'était eux qui étaient les plus directement concernés par cet usage des réseaux sociaux.
Oui, ils le font assez bien. Alors on va travailler sur on va évoquer aujourd'hui Arnaud Mercier un élément qui vous a beaucoup intéressé dans le livre qui s'appelle un discours d'escorte. Mm-hmm. Racontez-nous ce qu'est un discours d'escorte.
Alors, c'était un concept linguistique qui existait déjà, qu'on a un peu repris et aménagé à notre étude. Si vous voulez, le cas massif qui arrive le plus fréquemment dans les tweets et les retweets, ça va être le fait que la machine, que d'abord le média et la machine, ensuite Twitter, génèrent automatiquement le message. Par exemple, titre de l'article. Mmh. Et le lien URL pointant vers l'article. Et ça, c'est massif. Et dans les retweets automatiques, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où les internautes n'ont pas du tout de prise, en réalité. Et puis, il y a quand même toute une partie des messages, un peu moins de la moitié, on va dire, qui, eux, sont accompagné de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une intervention humaine, mais via une machine encore, comme par exemple des systèmes d'indexation automatique avec un hashtag, un mot dièse, si on veut parler français, comme disent les Canadiens, donc. Et donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est précisément, au-delà de quantifier ce trafic ordinaire de messages générés automatiquement, notamment avec des robots qu'on appelle des bots, en bon français.
Des robots.
Nous, ce qui nous a évidemment plus intéressé, c'est là où l'humain intervient, c'est là où l'internaute intervient. Et du coup, on a considéré que le segment titre de l'article plus lien pointant vers l'article était une unité de base et que tout ce qui tournait autour devenait une intervention humaine qui pouvait être assimilée à un discours d'escorte au sens de on ajoute une signification. Alors ça peut être une simple indexation. Alors on a le cas avec les bots qui republient des résultats sportifs. Alors par exemple un site de l'équipe, le PSG a gagné 2-0 et ils vont ajouter hashtag foot. Juste pour indexer. Voilà. Alors, on dirait que c'est le degré zéro du discours d'escorte. Ça nous intéresse que moyennement. Donc, celui-là, on l'a un peu mis à l'écart, puisqu'on a considéré que c'était une forme d'indexation, point. Mais alors, on a ça avec hashtag Afrique, hashtag Sarkozy, hashtag, vous voyez, enfin.
Voilà, c'est vraiment pour s'y retrouver sur le réseau si
Exactement.
On veut une information spécifique.
Mais par contre, après, ce qui nous intéresse, c'est effectivement les interventions des internautes pour essayer de commenter en réalité ce qu'ils sont en train de diffuser. Et le commenter, on y reviendra, j'imagine, dans le détail. Ça peut être sur le mode de conseil, j'allais dire, de lecture, d'émission, de de publication d'un avis, d'une indignation qui peut prendre différentes formes. Vous l'avez dit dans votre introduction, ça peut être une émoticône, ça peut être des mots, une phrase, enfin bon, bref, il y a plusieurs manières d'eux. Et donc, on a appelé ça le discours d'escorte au sens où il escorte la proposition d'aller cliquer sur un lien, puisque si on publie ça, c'est bien qu'on veut inciter les gens à, mais on l'accompagne d'un discours qui permet de justifier pourquoi, a priori, il y aurait intérêt à aller le voir.
Alors, on va pas restituer tous les discours d'escorte parce que c'est l'objet du livre, non. Mais il y a quand même, on va dire qu'il y a un usage d'un certain nombre de techniques ou de figures de style que les internautes connaissent bien. Alors, il y a par exemple, je mentionne, et puis vous nous direz, hein, Arnaud Mercier, on va essayer de poser des questions plus ou moins innocentes. On va mentionner un acteur public qu'on veut ou un acteur politique qu'on veut interpeller. On va détourner le hashtag. Et puis vous avez notamment, vous signez plusieurs articles dans ce volume-là, mais un article sur les émoticônes. On va mettre des émoticônes, donc des petites icônes amusantes, mais dont l'usage va être très très subtil pour faire venir les gens et les forcer à cliquer. Un mot peut-être sur ces figures de style et puis sur l'émoticône.
Un mot, ça va être compliqué.
Quelques
parce que
mots, on a du temps.
Oui, tellement il y a d'hypothèses possibles. Alors déjà, pour répondre globalement, je dirais, ce qui est intéressant, c'est de voir la richesse, justement, de ces discours d'escorte et du coup, les stratégies qui sont mises en œuvre avec de véritables, j'allais dire, coups tactiques hein, que peuvent faire les internautes pour essayer de capter l'attention et de, à la fois, j'allais dire, d'exprimer leur avis, leurs émotions, mais aussi d'essayer de générer, du coup, des émotions, des indignations ou autres auprès des internautes. Alors, vous avez des choses de différents registres. Vous avez des choses intéressantes comme par exemple des gens qui donnent des consignes de lecture du lien vers lequel ils mettent. Alors, par exemple, il y a un qui me revient tout de suite, vidéo à voir absolument à partir de 1 minute 43 secondes. Vous voyez, c'est genre, vous lassez pas, elle fait 5 minutes, mais allez le voir à partir de la minute 43. Bon, avec un petit côté, à la fois, je vous rends service, ça va plus vite. Et puis, peut-être aussi, je pense, la peur de la part de l'internaute que si les gens commencent à cliquer, voient le lien, voient la vidéo, et puis, au bout de 30 secondes, il se passe rien, ils se disent, mais pourquoi il nous a demandé ça? Donc, il préfère prévenir. La partie croustillante, elle est vraiment à 1 minute 43. Bon. Donc là, je dirais, c'est de l'ordre du conseil pratique. C'est bison futé, si vous voulez. N'allez pas entre telle heure et telle heure ou allez directement à 1 minute 43. Ensuite, on a des choses qui sont effectivement l'expression d'une émotion qui peut très bien se traduire par des mots, mais aussi justement par tout le jeu sur ces émoticônes, parce que on va par exemple prendre le petit bonhomme qui rit aux larmes pour dire ça c'est drôle. Donc il y a évidemment une indication de si je fais circuler ça, c'est parce que ça me fait marrer. Alors, et peut-être que vous aussi ça vous fera rire. En tout cas, sachez-le que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et c'est du coup c'est quand même le discours d'escorte est aussi une forme d'interprétation, pas seulement de l'information, mais aussi de l'intention de l'internaute. C'est-à-dire, j'ai mis ça parce que, voilà, alors de l'autre contraire, c'est « Oh, quelle horreur, mon Dieu !» Donc, attention, voilà. Vous avez aussi des gens qui utilisent les émoticônes, comme par exemple les sirènes de pompiers,
ouais, ça,
des choses comme ça, le gyrophare, pour signifier, pour essayer de capter l'attention. Parce que tout le monde le sait, j'imagine que parmi vos auditeurs, ils ont tous maintenant vu d'une façon ou d'une autre, quel que soit l'âge, des tweets, des Facebook, etc. Ben, c'est un mur, c'est en continu, il y en a plein, potentiellement c'est infini. Donc, alerte,
faut envoyer un signal d'alerte pour dire, là maintenant il faut s'arrêter dans ce flux.
Celui-là, il vaut plus le coup que les autres, vous voyez, si vous voulez. Donc, je pense que les internautes ont bien compris qu'on était rentré dans une économie de l'attention et qu'il faut essayer de capter cette attention. Donc, il y a l'usage d'un certain nombre d'émojis comme ça, ou d'émoticônes, donc, pour signaler que celui-là, il vaut vraiment le coup, que bon, voilà, on aimerait être lu, hein, c'est aussi la demande, hein, finalement, de. Après, vous avez des choses où on va avoir l'expression, alors là, très très clairement, d'un avis, très souvent, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de points de vue d'actualité, évidemment, liés à la politique, au social, à l'économie, donc des points de vue, j'allais dire, idéologiques ou quelque chose comme ça, des points de vue engagés. Donc, et là, on est furibard, on est en colère, on met une bombe.
On met des points d'exclamation.
Alors après, justement, autre... Ça, c'est avec tous les émojis. Un truc qui est très intéressant dans cette richesse d'écriture, parce qu'en plus, par exemple, si on prend Twitter, mais on va retrouver la même chose sur Facebook, mais sur Twitter, en plus, la contrainte, c'était 140 signes quand on a commencé, maintenant c'est 280, mais même 280, c'est pas si énorme que ça. Donc, dans une grande économie de moyens, il faut arriver à signifier des choses. Et, par exemple, il y a un jeu énorme sur la ponctuation. Les ponctuants sont mis à contribution pour exprimer des choses. Donc, par exemple, 5 ou 6 points d'exclamation, par exemple, des 3 petits points, alors là, qui sont souvent, d'ailleurs, des trucs un peu fielleux, on se comprend. Hein. Donc, on est entre nous et on implicite les choses. Bon, voilà. Donc, il y a beaucoup de ressources comme ça. Et puis, bien sûr... Après, il y a les phrases. Hein, bon, là, c'est explicite. On dit les choses. Je suis indigné. Enfin, bon, voilà. Dans les ponctuants, il y a aussi le jeu sur les caractères d'imprimerie. On peut écrire en grande majuscule. Alors, très souvent, d'ailleurs, quasiment tout le temps, j'allais dire, ceux qui font du discours d'escorte avec des grandes majuscules, c'est souvent des discours d'indignation, en réalité. Hein, il y a vraiment ce côté « j'en ai marre, c'est scandaleux », enfin, etc.
Donc là, ils écrivent en grand, parce que traditionnellement, sur Internet, c'était du temps du début, c'était une exclamation, enfin,
voilà,
c'était un cri.
C'est un cri, c'est exactement ça. Donc voilà, et puis... une autre stratégie, peut-être qu'on y rentrera plus en détail, c'est évidemment de hashtaguer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des mots hashtag qui ont une double valeur, j'allais dire. D'abord, quand vous mettez le dièse plus un mot à coller, ça se transforme donc en ce qu'on appelle en anglais un hashtag ou un mot dièse si on parle québécois, et ça le met en surbrillance. Donc déjà, ça le rend plus visible. Et puis, la deuxième chose, c'est que le principe même du hashtag, c'est que ça permet de relier automatiquement tous les messages qui contiennent ce même hashtag. Et donc là, vous vous inscrivez dans le partage communautaire, c'est-à-dire que vous inscrivez votre tweet dans une contribution. Et sur Facebook, on va retrouver ce même genre de stratégie à travers l'usage des ponctuants, etc. Et par contre, la partie emoji, elle est présente parfois, mais elle est plus souvent présente dans la manière de liker. Et Facebook lui-même a proposé justement, au-delà du pouce simplement, plusieurs petites binettes, comme disent nos amis québécois, la petite tête, alors rigolarde, furibarde, enfin, etc. Parce que précisément, ils ont vu le succès de ça sur Twitter et tous les réseaux sociaux s'imitent les uns les autres et ils ont estimé que ça permettait d'étendre la gamme d'expression des émotions parce que tout ça passe par l'expression des émotions.
Il y a un élément, Arnaud Mercier, qui est l'interpellation d'un politique, alors qui renvoie à ce qu'on vient de dire sur l'idée d'une communauté, etc. On peut suivre un homme politique, mais on peut aussi l'interpeller en le taguant.
Oui.
Donc à la fois, là, ça va le signaler pour les gens qui suivent et puis ça va le signaler à lui-même, c'est-à-dire que s'il a un compte ou des communicants, alors là, il reçoit. Expliquez-nous ce mécanisme du tag ou de l'interpellation politique, finalement.
Oui, souvent, c'est évidemment une interpellation politique. Alors, donc, si on est sur Twitter, ça va être une mention, c'est-à-dire que vous ne contentez pas de dire Monsieur Tartemolle, mais vous essayez de retrouver son adresse Twitter et vous mettez l'arrobase, nom, enfin le nom exact. Et du coup, effectivement, si la personne a paramétré son compte pour recevoir une alerte quand on le mentionne, eh bien, il saura immédiatement, mais vraiment dans la seconde, que quelqu'un vient de le mentionner, vient de parler de lui. Bon, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, parce que certains peuvent justement, à force de se sentir en quelque sorte harcelés par les mentions, peuvent paramétrer leur compte pour ne pas recevoir l'alerte et ne pas être au courant. Hein. Donc, c'est une arme qui peut être arrêtée, si je puis dire, du point de vue de la source. Et puis, donc du coup, effectivement, et alors vous pouvez aller écrire des commentaires sur les murs Facebook des gens qui publient. Donc, il y a tous ces réseaux prévoit justement la possibilité d'interpellation. C'est pareil aujourd'hui sur Instagram, enfin bref. Le fait est que c'est une promesse qui est, j'allais dire, une forme de promesse démocratique de permettre aux gens de dialoguer entre eux, etc. Mais pour le coup, des tas d'études sur l'usage par les le personnel politique des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, en période électorale, maintenant, quasiment, enfin, je crois que je ne connais pas un pays au monde qui n'a pas au moins une étude d'un politiste qui a étudié la manière dont les réseaux sociaux étaient utilisés pendant les campagnes électorales par les candidats. C'est devenu un espèce de fond de commerce. Et en fait, tous ces travaux montrent que de façon massive, sauf et rare exception de telle ou telle personne politique qui, lui, fait exprès pour se dissocier des autres et de se singulariser, de répondre, la plupart ne répondent jamais.
D'accord. Donc là, c'est vraiment arrêté pour le coup.
Ils ne répondent pas. C'est-à-dire que la promesse démocratique de je suis là-dessus parce que vous pourrez m'interpeller, on pourra dialoguer, n'est quasiment jamais tenue. Et quand vous interrogez un certain nombre de politiques, vous dites, si on est compte, si je mets le doigt dans cet engrenage, c'est la mort pour moi, c'est fini. Ouais. C'est vrai aussi pour les journalistes. Et vous avez des journalistes qui, eux, veulent tenir cette promesse jusqu'au bout. On peut songer, par exemple, à des gens comme Samuel Laurent au Monde, qui s'occupe des décodeurs. Thomas Negaroff à France Info, qui est l'historien qui remet les choses en perspective. Et à plusieurs reprises, ces gens-là ont dit, moi, j'arrête. J'arrête de tweeter, ou je coupe mes mentions, ou mes alertes, etc. Parce que j'en peux plus, parce que je suis harcelé, etc. Donc il y a effectivement un problème. Et d'ailleurs, certains internautes se livrent à une stratégie de harcèlement en meute. Donc ils sont plusieurs à écrire, à mentionner, pour insulter, pour que les gens sachent que ça m'est arrivé personnellement. L'extrême droite m'avait pris en grippe à un moment et j'ai reçu genre 4700 commentaires et mentions en quelques jours. Voilà, j'en ai fait une intervention dans un colloque pour faire ma thérapie face à ce harcèlement.
Donc, mais j'entends bien. Non, mais c'est vrai qu'après, évidemment, la puissance des machines fait qu'on peut tweeter, retweeter et lancer ça. Et donc on se retrouve avec des volumes. De mails à traiter. Peut-être un point toujours sur le discours d'escorte, Arnaud Mercier. C'est sûr qu'on n'a pas épuisé le sujet, mais il y a l'idée aussi qu'il a pour ambition d'imposer du sens, d'imposer le sens de la lecture, oui. de guider énormément la lecture et éventuellement de lever l'ambiguïté. C'est-à-dire de vraiment de dire à l'internaute, voilà comment il faut lire, voilà mon intention pour que tout soit cadré au maximum.
Absolument. Alors, c'est vrai, par exemple, de l'ironie. Vous avez des discours d'escorte qui sont des discours, j'allais dire, très d'esprit. Vous voyez, j'ai de l'esprit, je fais de l'ironie, etc. Un petit discours moqueur sur la cible, ce qui peut être un footballeur, un club de football, mais aussi un homme politique, une personnalité publique, un journaliste, un média, que sais-je encore, une star, enfin bref. Donc, une petite pointe d'ironie. L'ironie, c'est réversible, c'est même son avantage et sa limite si on veut. Demandez à Alain Finkielkraut ce qu'il en pense. Et donc, du coup, pour désambiguiser le fait qu'on ait recours au trait d'esprit ironique, on rajoute par exemple une petite émoticône de celui qui rit, qui sourit, du clin d'œil. Ça permet de dire, vous voyez, non, c'est bien une trace d'ironie. Autre élément aussi qui est intéressant parfois à noter, parce que on insiste beaucoup sur justement la véhémence, les gens un peu trop sûrs d'eux, qui sont agressifs, etc. Mais vous avez aussi le contraire, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui sont dans des postures au contraire d'humilité. Parce que et ça se voit notamment aussi à travers l'étude des profils des gens. Beaucoup de gens sur les profils, y compris des personnalités publiques, essayent de faire en sorte de dire, vous voyez, on est sur les réseaux sociaux, je me prends pas totalement au sérieux. Donc sur Facebook, on va publier des photos de soi un petit peu olé olé, un peu bon dans des situations un peu rigolotes, un peu drôles. On peut mettre ça dans sa manière de se présenter, dans son profil, et les photos de fond d'écran, hein, que ce soit sur ses profils Twitter ou Facebook par exemple. Mais aussi du coup dans les messages, et donc vous avez souvent des par exemple sous forme de hashtag, notamment des petits hashtags humoristiques qui visent à dire bon ben voilà, je dis ça, mais enfin on se prend pas vraiment au sérieux, donc dans une logique de clin d'œil avec les internautes, hashtag je dis ça, je dis rien. tout attaché.
Je pose ça là.
Voilà, hashtag je pose ça là. Enfin, bon, voilà. Hashtag, oh là là, c'est quand même dur de vieillir. Enfin, bon, voilà, je sais pas quoi. Enfin, et parce que, on, voilà, je veux exposer une face de moi aux internautes qui consiste à dire, j'ai pas le melon, je me prends pas la tête. Bon, je dis ça, c'est un petit commentaire, c'est sans prétention. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Et donc ça me paraît intéressant de souligner que il y a aussi les postures d'humilité et pas que les postures d'agressivité, etc.
Oui, ou de cadrage puissant ou un peu lourd. On va écouter un extrait d'un sketch de l'humoriste Haroun. C'est à propos d'une alerte missile à Hawaï sur Twitter.
Je m'informe parfois sur Twitter, c'est une très mauvaise idée. Faut pas s'informer sur Twitter. Faut pas, c'est trop court pour s'informer. Il y a une alerte missile à Hawaï. Apparemment, c'était une erreur. Ils voulaient lancer un test d'alerte. Ils se sont trompés dans le menu déroulant du logiciel. C'est ça qu'ils ont dit. Hein. Vraiment. Il voulait lancer un test d'alerte. Il a fait « Michel, comment tu lances un test d'alerte ?» Michel était là « Tu vas dans options. Options avancées. Paramètres. Paramètres généraux. Et là, t'as test d'alerte. C'est bon ?»« Ouais, j'ai vu test d'alerte, ouais. Mais comment t'annules une vraie alerte ?» Et là, c'était trop tard. Twitter s'enflamme. « Une alerte à Hawaï, c'est la guerre. » Les gens vont mourir, c'est la Corée du Nord qui attaque Hawaï, etc. Ça a mis 38 minutes à être corrigé. 38 minutes pour Twitter, c'est beaucoup trop long. Hein. Pendant 38 minutes, on se demande ce qu'ils ont fait. Ils étaient là, va dans aide. Voilà, là, je comprends rien. C'est quoi, redémarre. Voilà, hop là, redémarre, voilà. Ah, les mises à jour Windows, oh là là. Et pendant ce temps-là, Twitter continue à s'enflammer. T'as Kim Jong-un qui est sur Twitter qui fait « Mais j'ai tiré, moi, qu'est-ce que j'ai fait ?»« On a tiré, j'étais bourré ou quoi hier soir, qu'est-ce qui se passe ?» Hein ? T'as l'état-major américain qui doit paniquer, qui appelle Kim, qui dit « Mais pourquoi t'as tiré ?»« Mais c'est pas moi !»« Enfin, je crois pas, c'est... Enfin, »« Mais c'est qui, alors ?»« Bah, j'en vois qu'un seul. »« Bah, qui ?»« Bah, Trump. »« Mais t'es con ou quoi ?»« Ah ouais, c'est américain. »« Est-ce qu'il le sait ?»
La valeur de l'homme, fréquence protestante, l'info sur les réseaux sociaux. Nous sommes en compagnie d'Arnaud Mercier. On fait une petite digression, Arnaud Mercier. Je suis frappé, en lisant l'ouvrage, par, au fond, la vitesse avec laquelle les internautes se sont appropriés les réseaux sociaux, les hashtags. Il y a dans un des articles, on voit quelques erreurs de hashtag, un hashtag qui est mis devant un pronom, bon, qui évidemment n'a aucun sens puisqu'il faut le mettre sur un mot un peu clé pour le coup. Donc visiblement, il y a quand même un art de faire qui s'est développé sur ces réseaux sociaux.
Absolument. Il y a vraiment un art de faire. Et puis comme toujours dans les logiques d'appropriation des technologies, il y a même des logiques de détournement, c'est-à-dire qu'on est capable de faire autre chose que ce que les gens en faisaient. Je vais prendre un exemple qui là concerne les journalistes spécifiquement. Je peux vous assurer et vous garantir que jamais les créateurs de Twitter au départ qui voulaient faire une sorte de plateforme qui permettait de faire en sorte d'envoyer une sorte de SMS de groupe, en fait, parce que c'était ça au départ. Hein. C'est, quand ils ont fait ça, c'était parce que les SMS ne pouvaient pas s'envoyer groupés, donc du coup, il fallait envoyer un SMS par personne, donc du coup, ça coûtait un SMS.
Oui, parce que les SMS étaient payants.
Voilà, et du coup, ça coûtait un par personne, et en plus, les autres ne savaient pas forcément qui avait reçu, enfin bon, voilà. Donc, ils inventent ça, et... ça prend progressivement, on va dire, mais c'était pour, enfin, entre potes, quoi, vous voyez. Jamais ils n'ont imaginé que, par exemple, des journalistes qui n'ont pas le droit de tourner, filmer, etc., en direct dans un procès, feraient des tweets live de procès, comme on l'avait vu, par exemple, pendant le procès de DSK, enfin, la comparution de DSK pour savoir s'il allait aller en prison, rester en prison, etc. Donc, on est dans quelque chose où effectivement l'appropriation devient très importante, et puis c'est un jeu entre les plateformes qui inventent de nouveaux dispositifs, qui proposent des choses qui a l'air de tenir compte de ce que les internautes veulent en faire, ou qui offrent, qui ont des idées d'offrir quelque chose que les internautes ne pouvaient pas faire, et puis on voit, ça marche pas, on prend pas. Bon. Donc effectivement, il y a des choses qui se créent progressivement avec des appropriations. Et après, vous pouvez même avoir du coup des tactiques, des tactiques au sens de Michel de Certeau, puisque vous parliez d'art de faire, des tactiques comme par exemple ce qu'on met dans, on met en évidence dans un des articles, hashtag Taubira.
Il y a une monographie hein, dans, voilà. dans le livre.
Madame Taubira, elle était ministre de la Justice. Madame Taubira, elle est détestée, mais vraiment détestée par une partie de la droite et notamment de l'extrême droite. Alors là, très clairement, elle a tous les défauts, si je puis dire. Elle est socialiste, elle est ministre de la Justice, là où ils pensent que les socialistes, par définition, sont laxistes. Elle est noire, elle est femme, elle est grande gueule. Enfin, elle a tous les défauts de la terre pour l'extrême droite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et du coup... ils vont, par exemple, une petite communauté de partage se met en place dans laquelle ils relaient de façon systématique tout article portant sur un fait divers, divers et varié, hashtag Taubira. Alors on se dit, mais pourquoi ? Et au bout d'un moment, on voit, y compris quand certains ajoutent un petit discours d'escorte en plus du hashtag Taubira, et là on comprend que hashtag Taubira, ça devient, dans une communauté particulière, un clin d'œil... qu'on se comprend entre nous, n'est-ce pas, qui est encore la preuve de que les socialistes sont les partisans d'une justice laxiste, il y en a marre, socialiste dehors. Enfin, voilà. Mmh. Et donc hashtag Taubira, c'est un équivalent fonctionnel de toute une longue phrase et d'un raisonnement qui consiste à dire que décidément les socialistes sont irrécupérables. Donc on voit bien comment en effet avec un seul mot et l'utilisation de cette technologie qui est mise à disposition, le hashtag, on peut trouver des tactiques, des arts de faire pour solidifier, j'allais dire, une idéologie et un groupe autour de la dénonciation de l'incurie en matière de justice et de sécurité des socialistes, telle qu'elle est supposée par ces groupes.
Alors, Renaud Mercier, ça nous amène à l'autre élément qui est au cœur de l'ouvrage, c'est-à-dire, au fond, les motivations sociales et politiques du partage de l'information, d'informations issues de sites professionnels de news et de médias. Donc là, par exemple, dans le cas de Christiane Taubira, c'est du bashing, c'est du lynchage. Bon, il y a d'autres cas, il y a des idées de créer une communauté d'intérêt, il y a une ambition de mobilisation politique, il y a un hashtag à un moment qui est que vous travaillez Iran qui s'appelle Iran élection en 2009, il y a le hashtag UMPS. Bon, donc là on a vraiment des motivations, une volonté de d'intervention citoyenne, politique, militante, voire de trolling.
Absolument. Alors, il y a toute la gamme en réalité de ce qu'on peut vouloir faire quand on cherche à mobiliser. C'est-à-dire que vous pouvez essayer d'aller harceler ceux qui sont posés comme des adversaires, hein, des ennemis même, je dirais. Vous pouvez donc vous les interpeller, vous les mentionner, vous allez commenter systématiquement en bas de leur page Facebook, enfin de leur public, leur post Facebook, et là il y a une espèce d'intervention concentrée, et tout d'un coup sur un post vous avez 50, 60, 80, 100, 150 personnes qui pratiquement en même temps interviennent, c'est scandaleux, enfin etc. On le voit aussi d'ailleurs dans des par exemple si vous ouvrez les commentaires sur Periscope, c'est donc qui est une application liée à Twitter pour la vidéo, diffuser des vidéos en direct ou un Facebook Live, si vous ouvrez les commentaires, très rapidement, vous avez des gens qui se déchaînent pour pas seulement commenter ce qui est diffusé, mais par exemple critiquer celui qui vient d'ouvrir et diffuser. Bon. Donc il y a effectivement ça. Sinon, vous pouvez en effet utiliser ces technologies pour essayer de souder les communautés, hein, à l'instar de ce qu'on fait quand on crée un groupe Facebook. On l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes,
les Facebook groupes colères et autres.
Ont été des outils très efficaces de coalition de gens qui ne se connaissaient pas et pour essayer de mettre ensemble les bonnes volontés, les énergies et partager des idées et se mobiliser concrètement, hein, en faire un outil de, alors où est-ce qu'on va, quelle action on fait, enfin, etc. Donc, vous pouvez le faire aussi en commentant l'actualité parce que, justement, vous faites des hashtags. Et donc, par exemple, effectivement, le hashtag UMPS que vous évoquiez, ben, avec ce seul mot, hashtag UMPS, qui tient d'ailleurs du discours que tient le Front National pendant longtemps. Vous faites par ce mot valise contractant l'UMP et le Parti Socialiste, vous en faites un outil de dénonciation des soi-disant collusions, impuissances des forces de gouvernement traditionnelles qui étaient l'UMP et le Parti Socialiste. Donc il y a moyen effectivement de... Et après, on le voit bien aussi, c'est un moyen d'essayer de construire certaines représentations. Il y a un article qui parle justement de la manif pour tous et de la lutte des hashtags entre le mariage pour tous et la manif pour tous et la manière dont à la fois vous essayez positivement de vous mettre sur, j'allais dire, de construire une communauté de partage. On pense tous la même chose, donc voilà. Et puis des stratégies effectivement de trolling, hein, de troll au sens de personnage qui vient un peu perturber les choses, et où vous allez au contraire vous inscrire de façon systématique sur le hashtag, j'allais dire, de votre adversaire, pour y glisser des messages qui sont des messages de critique. Et par exemple, on l'a vu dans le cas de la manif pour tous, vous avez un certain nombre de militants pour le mariage pour tous qui prenaient des photos de manifestants, des pancartes, des slogans, de tout ce qui leur apparaissait comme des slogans excessifs, haineux ou je ne sais quoi, ou homophobes, et qui repostaient précisément ces images avec le hashtag de la manif pour tous, mais pour que justement ça interpelle, ils espéraient, en tout cas les partisans de la manif pour tous, en disant mais ah bon, vous cautionnez ça, enfin vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a effectivement beaucoup de stratégies de mobilisation, parce que c'est la force des réseaux sociaux, c'est de tenir la promesse d'être à la fois un outil. Et c'est bien pour ça que ça a marché, hein, les plateformes ont été si bien appropriées. C'est un outil qui permet, je veux dire, de satisfaire une forme d'expression de son individualité, donc une sorte, de narcissisme, de présentation de soi, de défense de sa personne, etc. Avec, de l'autre côté, la recherche quand même d'une appartenance à un collectif.
Il y a aussi parmi les motivations l'idée de relayer peut-être des informations moins visibles, moins mainstream, un peu écrasées dans la masse des informations, jusqu'à d'ailleurs aller partager des choses qui viennent plus des sites que vous travaillez, mais qui vont venir de sites alternatifs, comme on dit, de réinformation, je mets des guillemets, mais qui sont des sites, alors là, pour le coup, hyper idéologisés.
C'est parfaitement exact. Tout ce qui circule en terme, enfin, de ce qui pourrait s'apparenter à une information ne correspond pas exclusivement, évidemment, aux médias les plus traditionnels, les plus connus, ayant pignon sur rue. Mais on a aussi, évidemment, la remise en circulation de propos et de contenus qui viennent de médias qui sont, bon, disons, plutôt des blogs, hein, mais qui sont des blogs, effectivement, qui sont aux marges de la vie politique et pour lesquels le respect de la déontologie et de la véracité n'est plus du tout le problème, bien au contraire. Et d'ailleurs, on en a retrouvé un certain nombre, évidemment, parce que certains mettent en correspondance les deux sur un mode « voilà l'information telle qu'elle est traitée par les médias », ou devrais-je dire les merdias, les journalopes, hein, parce qu'il y a aussi cette inventivité verbale pour dénoncer de façon très agressive le rôle des journalistes. Et puis, deuxième lien URL mis dans le message, et qui lui pointe vers... ça, donc en gros, la vérité officielle, la Pravda, enfin hein, l'idée qu'il y aurait une espèce de... On serait quasiment dans un régime dictatorial, avec une vérité officielle, avec des médias officiels. Et puis, de l'autre côté, on met en correspondance un lien vers, si vous voulez être vraiment informé, allez plutôt là.
Il y a un élément sur le narcissisme qui apparaît quand on travaille notamment sur Facebook. Alors c'est un peu anecdotique mais pas négligeable. C'est l'idée, il y a des étudiants qui vous disent, moi ça me permet un peu de draguer, mais de draguer, on va dire, intelligemment, c'est-à-dire en montrant qu'on est quelqu'un de politisé, d'entier, de militant. Cet élément-là, il n'est pas négligeable dans à la fois la présentation de soi et la captation d'éléments politiques.
Oui, alors c'est vrai que certains usagers de Facebook ont été étudiés aussi par des collègues qui faisaient partie du dispositif, mais qui font état aussi d'autres études qu'ils ont fait par ailleurs. Il est évident que pour certains, il y a une vraie stratégie de présentation de soi sur Facebook. Et ça conduit d'ailleurs parfois certains à avouer explicitement que, c'est ce que dit, comment dire, notre ami le Karoff.
Coralie,
voilà, j'ai oublié son prénom d'un coup. Coralie de Karoff, c'est ce qu'elle dit, en fait, certains modèrent ce qu'ils disent, ne font pas toujours état de la totalité de leur point de vue et opinion, parce que ils veulent ne pas risquer de heurter une partie de la communauté qu'ils ont patiemment accumulée et dans laquelle ils savent que tout le monde ne partage pas exactement leur point de vue parce que des gens sont abonnés à son Facebook sur d'autres critères que simplement un critère, par exemple, idéologique. Donc vous avez aussi ça quand même. Vous avez des gens qui, pour préserver leur propre face, si on est goffmanien, eh bien, vous diront bah oui, mais là, je fais quand même attention, je publie pas tout, etc. Et puis par ailleurs, sur Facebook, on a aussi des gens qui en fait publient très peu de choses, mais vous disent, on l'a vu dans les enquêtes, ils vont publier à certains moments très particuliers, des moments de rush d'actualité, d'une actualité brûlante, quelque chose comme ça, dans lesquels ils vont exprimer vraiment une émotion. Le cas typique, c'est attentat. Alors là, des gens qui ne publient pas, tout d'un coup, vont publier parce que là, ils veulent dire à la face du monde, qu'eux aussi, ils sont blessés, ils sont meurtris de tout ça, ils sont tristes, enfin voilà. Donc il y a un moment, il y a certains faits d'actualité qui peuvent susciter une activité extraordinaire par rapport à leur publication.
Ce que montre aussi l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Arnaud Mercier, c'est l'idée au fond qu'il y a un rapport ordinaire aux politiques. C'est-à-dire que les gens sont politisés, vont partager de l'info politique. Il n'y a pas besoin d'avoir des capitaux sociaux et culturels gigantesques pour s'intéresser à la politique. On le voit avec notamment les étudiants sur Facebook, mais beaucoup plus largement sur Twitter. La question politique, elle intéresse très largement.
Oui, à partir du moment où on met pas un espèce de chiffon rouge en utilisant le mot politique avec un grand P, voilà, ou alors avec le côté politicien cette fois-ci, au contraire, j'allais dire la politique aura des pâquerettes parce que les querelles d'appareil et la course de chevaux qui va gagner, etc. Il y a effectivement une politisation ordinaire qui apparaît très clairement dans les prises de position, parce que le fait de partager de l'actualité, des faits d'information, et répond souvent quand même à des formes de stratégie, au sens que cela dévoile déjà les centres d'intérêt des gens. Et que s'ils le font, ils le font souvent, je parle pas de tout ce qui est message automatisé avec des robots pour essayer de générer du trafic, hein. Là je parle vraiment des vrais gens, comme dirait l'autre, voilà. Et on voit bien que certains ont par exemple des stratégies d'être des gros, ce qu'on a appelé des gros partageurs, et que du coup et ils publient très régulièrement, donc il y a aussi ce côté qui est aussi un geste politique, dans l'écosystème socio-numérique de l'information, si je passe du temps à m'informer, je fais donc une veille, eh bien, pourquoi ne pas la partager? Donc, je vais faire don de ma veille aux autres, hein. Donc, il y a effectivement ce genre de stratégie aussi qui est là, très à l'œuvre et qui aboutit à des gens qui prennent des positions, on va dire, politiques, au sens le plus démocratique du terme.
Oui, et qui l'affiche. Merci beaucoup, Arnaud Mercier, pour votre présence aujourd'hui. Je rappelle le titre du livre que vous avez coordonné avec Nathalie Pignard-Chenel, s'appelle #info. Commentez et partagez l'actualité sur Twitter et Facebook. C'est sorti en 2018 aux éditions de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Merci à Arnaud à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À très bientôt.